Weekend Sport. Sofiane Amazian.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour Mondial Sport épisode 2 au programme. Le championnat d'Afrique des Nations évidemment et le Sénégal en liesse après sa victoire au bout des tirs au but face à l'Algérie. Après la CAN, le CHAN et le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Les réactions en Algérie avec Martin Guez et dans les rues festives de Dakar avec Baba Karfal. Du ballon rond au ballon ovale, l'équipe de France de rugby débute parfaitement le tournoi des 6 nations après sa victoire face à l'Italie. Les Bleus, favoris à leur propre succession, analyse de la rencontre avec Cédric De Oliveira. Puis nous ouvrirons notre page sport féminin toujours. Cette opération vise à mettre en lumière les belles performances dans le sport féminin. Nous vous emmènerons d'abord à Lubumbashi en RDC prendre des nouvelles de la section féminine du TP Mazembe qui a disputé la dernière phase finale de la Ligue des Champions africaine. Puis nous nous projetterons un peu jusqu'en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Christophe Diremzian s'est entretenu avec l'athlète malvoyante Nanténin Keita. Hélène Avril et Jean-Philippe Thury réalisent cette émission. Mondial Sport, c'est parti. Et on file sans plus tarder en Algérie, terre d'accueil du championnat d'Afrique des Nations. La finale hier soir a couronné les Lions sénégalais face à l'Algérie dans le stade Nelson Mandela, 0-0 au bout des prolongations. Et c'est à l'exercice des tirs au but que les Sénégalais se sont montrés les plus adroits. La joie immense des Lions contraste avec la stupeur des Fennecs locaux qui n'auront encaissé aucun but dans cette compétition. Retour sur cette soirée pas comme les autres avec notre envoyé spécial Martin Guez.
La victoire en chantant pour les Lions sénégalais jamais rassasiés après une année passée sous une bonne étoile ponctuée d'un nouveau titre, même si les Sénégalais ont eu chaud et ont failli être domptés, reconnaît l'homme du match, si ce n'est du tournoi, Lamine Camara.
On a un match difficile avec l'Algérie. Mais bon, comme les pénalties, on a beaucoup travaillé là-dessus parce que depuis le début de la compétition, on a manqué deux. C'était vraiment difficile pour nous. En mentalement, le coach nous a motivés et toute l'équipe l'a arrêté, mais bon. Nous aussi on a arrêté et maintenant on a remporté le trophée, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah Lamine Camara, car le Sénégal aurait pu connaître une issue moins heureuse si Ayman Mayous, le meilleur buteur de la compétition, n'avait pas raté son pénalty. Une clameur puis la stupeur, d'autant plus que l'entrant Guendouzi envoie lui sa tentative sur la barre, sacrant le Sénégal. En un clin d'œil, l'impressionnant stade Nelson Mandela, garni depuis le petit matin, se vide, s'évapore. Seuls quelques supporters algériens restent pour la cérémonie de clôture, à l'image d'Hassan.
Oui, je suis déçu, trop déçu même. Je suis resté pour voir la cérémonie, quand même pour féliciter aussi les Sénégalais. Une équipe solide, je leur tire chapeau et bravo.
Des Algériens fair-play qui ne pouvaient pas faire grand-chose face à l'insolente réussite sénégalaise, qui avait dans leur rang un talisman, Alioune Badara Fati, portier de Casa Sport et deuxième gardien de la sélection locale, à qui rien ne peut arriver, le voilà vainqueur de la CAN, vainqueur du CHAN, unique joueur à faire le doublé.
C'est moi le porte-bonheur de ce pays, quoi. On a bien rigolé, c'est bon, quoi.
C'est le joueur.
Mais c'est magnifique pour moi, c'est trop beau pour moi. Quel palmarès pour moi.
Et quel palmarès pour le Sénégal, la CAN au Cameroun, celle de beach soccer au Mozambique. Et enfin ce CHAN, le Sénégal n'est plus maudit, bien au contraire, savoure le sélectionneur Pape Thiaw.
On gagne le CHAN et les 6 ont fait notre CAN. Le football sénégalais est en train de triompher en Afrique. On disait que les Sénégalais, ils loupent beaucoup les pénaltys. Aujourd'hui, on fait 3 fois champion d'Afrique. Au Cameroun, on gagne au pénalty. Au beach soccer, on gagne au pénalty. Et ce soir, on gagne encore au pénalty.
Trop d'anniversaires d'un coup, de quoi oublier le sien.
Nous sommes le 5 et c'est son anniversaire.
Merci. Tellement que j'étais content, j'ai oublié mon anniversaire. Hein. Je ne pouvais pas rêver un cadeau meilleur que celui-là. Ah oui, c'est plus magnifique, mis à part quand j'ai eu mes enfants. Donc voilà, il n'y a pas mieux que les enfants, je pense.
Ses enfants d'adoption, ses joueurs, le lui rendent bien. À l'image de l'attaquant, Sérigné Koïté.
On l'a fait un bon corps en gagnant la coupe. On l'a fait une surprise, on a été les lampes en temps qu'il arrive, qu'on lui souhaite joyeux anniversaire. En lui versant de l'eau et beaucoup de quoi. Mais vraiment, on est trop content, merci beaucoup.
Trop content, comme le président de la fédération, Augustin Senghor, Après son lot de défaites, il savoure cette profusion de succès.
Trop d'anniversaires en même temps et c'est magnifique. Je pense que désormais, il faudrait que le mois de février, on l'appelle mois du Sénégal parce que tout nous réussit bien. Et je vais demander au président de la CAF de toujours organiser les compétitions pour que les finales se jouent en février.
Un mois béni pour boucler cette année étoilée. Et la fête n'est pas finie avec le premier anniversaire du Sacre à la CAN, ce lundi 6 février. Martin Gaz, Alger, RFI.
Le Sénégal qui balait tout sur son passage depuis un an, Coupe d'Afrique des Nations, CAN de beach soccer et maintenant le Chan les rues de Dakar ont encore vibré pour leur lion. Babacar Fall est allé recueillir les impressions des supporters transportés au 7e ciel.
Dans cette famille, juste avant le dernier tir au but algérien, le stress avant la délivrance.
Je lance, tire et rate. Le Sénégal crée la sensation au stade Nelson Mandela.
Direction la rue, tout le monde dort pour fêter la victoire.
Ça, on est content, les Lions l'ont fait, l'équipe nationale l'a fait, après eux. On est content quoi, c'est la fierté.
Nice. On est tous contents parce qu'on savait tous que voilà, on pouvait le faire quoi. Parce que nous avons des joueurs qui ont la qualité. Voilà, ce sont des bons joueurs quoi, je peux dire. Voilà, nous sommes très contents. Voilà, on leur dit que voilà, ça reste encore beaucoup d'autres coupes quoi à remporter, Inch'Allah Rabbi.
Même les personnes âgées ne voulaient pas se faire raconter cette performance historique. Albert, gendarme à la retraite.
On n'a rien à lui donner que dire félicitations aux jeunes. Parce que vraiment, ça prouve que le football local est encore là et qu'on doit vraiment persévérer et donner les conditions de vie et toutes les infrastructures. Et ça, vraiment, félicitations.
Victoire jusqu'au bout du suspense, comme lors du sacre de l'équipe A en finale de la CAN il y a un an. Pour ce supporter, le Sénégal est le roi des tirs au but.
Il fallait qu'il y ait le tir au but, comme on a fait en CAN avec l'Égypte. Mais donc franchement, nous les félicitons. Et franchement, je dis merci à tout le monde. Merci à Pacchop, merci aux Lions.
Des supporters sénégalais qui renouent donc avec cette ambiance de victoire le mois de février. Mais cette fois-ci sur un nerf de revanche.
C'est une revanche que le Sénégal a pris par rapport à l'équipe algérienne qui nous avait battu lors de la Coupe d'Afrique en 2019. Voilà, et les Lions locaux viennent de prendre une revanche par rapport à leurs aînés. Tout le monde est content. Et puis voilà, on ne peut que remercier le bon Dieu de nous avoir offert ce beau victoire contre une très belle équipe algérienne.
Et ils étaient ce soir nombreux à se rendre à l'aéroport Léopold de Senghor pour accueillir les héros d'Alger. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Et à noter que les Lions locaux sont d'ores et déjà rentrés au pays et ont été par la suite reçus par le président de la République, Macky Sall. Et on joue au football également en Europe, direction l'Espagne pour suivre le championnat de Liga. La lutte pour le titre est plus que jamais engagée entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Bonsoir Pierre Chaperon.
Bonsoir Sofiane.
Pierre, un match est en cours, le FC Barcelone joue face au FC Séville et c'est plutôt bien parti pour le FC Barcelone.
C'est même très très bien parti. 75 minutes de jeu et 2-0 pour le Barça. But de Alaba à la 58e minute, bien servi par Kessié dans la surface. Superbe passe de l'Ivoirien qui glisse le ballon entre deux Sevillanistas. Et puis il y a quelques minutes à la 70e, le but de Gabi Rafinha lancé par Koundé sur le côté droit, centre rat-terre repris par Gabi. C'est totalement logique vu la physionomie du match puisque la possession de balle c'est du 66-33. Ça se passe très très bien alors qu'il y a une grosse occasion, c'est à côté de la part de Lewandowski. C'est donc je vous le disais totalement logique pour le Barça qui domine complètement ce match. 5 tirs à cadrer à 0 pour les Catalans. On a vu un superbe duel entre Lewandowski et Yacine Bounou, le Marocain qui a sorti deux occasions nettes de la part du Polonais, dont un tir à bout portant en première mi-temps. La tuile, c'est la blessure de Busquets dès la cinquième minute. Ça semble être une torsion de la cheville. Alors, on pensait que ça serait grave, mais finalement, la presse espagnole parle de 2 à 3 semaines d'arrêt pour l'Espagnol, remplacé par Kessié, qui a donc fait ce match très sérieux. C'est un peu deux mondes, hein, parce que le Barça est en tête de la Liga et Séville 14e à 10 points des places européennes. On voit vraiment la différence.
En revanche, Pierre, ça ne va pas très très bien pour le Real Madrid qui a chuté sur le terrain de Mallorca 1-0.
Ouais, rien n'allait pour les Madrilènes. Ça a commencé par le forfait de dernière minute de Courtois. Pendant l'échauffement, une gêne à l'adducteur, des tests physiques vont être effectués demain. Et puis après, c'est Nacho contre son camp à la 13e minute lors d'un duel de la tête avec l'Albanais Muriqi qui a marqué contre le seul but donc de la rencontre. Un Real sans Militao, Benzema, Mendy, Lucas Vazquez, Eden Hazard avec Modric et Kroos sur le banc, avec Tchouaméni de retour, des matchs qui s'enchaîne avec peut-être un manque de fraîcheur, manque d'idées, une première période catastrophique et troisième défaite de la saison pour les Madrilènes. Bref, une rencontre médiocre encore de la part du Real et une presse madrilène qui était unanime après la rencontre. Le Real est d'ores et déjà hors course pour le championnat. Alors bon, on va peut-être un peu matisser tout ça, puisqu'il reste 18 journées. Écoutez Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, c'est une défaite qui fait mal.
Ça a été le match que nous attendions, un match dur, difficile, avec beaucoup de fautes. Le but encaissé rapidement et le pénalty raté nous ont touchés. En vérité, ça a été un match atypique avec beaucoup d'interruptions. On a perdu notre sang-froid en première mi-temps, ça allait bien mieux en seconde période. Et ce résultat a une incidence sur le championnat. Maintenant, on a le mondial des clubs et on veut le gagner. Et après, on reviendra pour se battre pour cette Liga jusqu'à la fin. Ça n'est pas encore fini parce qu'il reste beaucoup de rencontres. Et dans tous les matchs, il peut se passer ce qui nous est arrivé aujourd'hui.
Et juste, puisqu'on est en direct, avec le troisième but du Barça, un centre de Alba et c'est Rafinha qui reprend. 3-0, la messe est dite, très certainement. On revient donc sur le Real Madrid donc qui a perdu. Carlo Ancelotti en parlait, 29 fautes de la part de Mallorca, dont 10 sur le seul Vinicius. Il y avait un contentieux et il date depuis le match aller en septembre dernier. Les défenseurs mallorcains ont bien chargé le Brésilien, qui est souvent la cible des tacles adverses. On notera également la troisième titularisation de suite au poste d'arrière gauche d'Eduardo Camavinga, que l'on surnomme déjà au Real. C'est vrai, hein. Lizarazu lui donne ce soir la note de 7, même s'il n'aime pas le poste, il a les qualités pour cette position, dit le quotidien madrilène. Direction Rabat au Maroc pour le Real, le mondial des clubs, avec une demi-finale dès mercredi contre les Égyptiens d'Al Ahly. Benzema et Militao sont espérés.
On est à noter la défaite de la Real Sociedad à domicile 1-0 contre Valladolid et le nul hier de l'Atlético de Madrid, 1-0 contre Retafe. Merci beaucoup Pierre Chaperon, vous étiez en direct de Madrid. Et du football au rugby, l'équipe de France masculine a remporté son premier match du tournoi des 6 nations. Victoire ô combien compliquée face à l'Italie, nation réputée la plus faible de la compétition. Score final 29-24. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Rome. Bonsoir Cédric De Oliveira.
Bonsoir Sofiane.
L'essentiel est là pour les Bleus, mais on ne s'attendait pas à de telles difficultés.
Oui, ça a été très dur, beaucoup trop dur hein, par rapport au standing des deux équipes, même si c'est vrai que l'Italie a beaucoup progressé ces dernières années. D'autant que les Bleus ont bien démarré avec deux essais rapides, l'un inscrit par Thibaut Flamand, l'autre par Thomas Ramos. Il y en a même eu un troisième d'Ethan Dumortier, un petit nouveau du 15 de France qui a donc marqué un essai pour sa première sélection. Mais déjà, à ce moment-là, les Français ont été poussés à la faute. Et en rugby, eh bien, si vous êtes sanctionné, l'autre équipe obtient des pénalités. Vous savez, c'est lorsque l'un des joueurs frappe le ballon entre les poteaux, eh bien, les points s'engrangent. Et l'Italie est restée proche au score, 19-14 à la pause, notamment grâce à la star Ange Capozzo qui a marqué un essai, hein, on vous en a parlé hier dans Mondial Sport d'Ange Capozzo. L'Italie est même repassée devant 24-22 en seconde période, mais heureusement pour les Bleus, ils ont inscrit un autre essai par Mathieu Jalibert, ça fait donc 29-24 au final, 4 essais, bonus offensif, ça veut dire un point de plus au classement. La série continue pour le 15 de France qui remporte son 14e succès d'affilée, c'est un record dans son histoire.
Et le 15 de France, Cédric, qui a montré beaucoup de fébrilité face à un adversaire qui a joué crânement sa chance.
Oui, l'Italie est en plein renouveau, on l'a dit. Elle a déjà battu l'Australie et le Pays de Galles l'an dernier. Alors, c'est plus l'équipe qui se présentait en victime au coup d'envoi à chaque match. Elle progresse, il y a des joueurs prometteurs. On parlait de Capozzo notamment. Mais les Bleus étaient largement favoris. On rappelle qu'ils sont tenants du titre de ce tournoi destination, qu'ils espèrent conserver leur trophée cette année, qu'ils rêvent aussi de remporter la Coupe du Monde sur leur territoire à la fin de l'année. Mais ils ont été trop sanctionnés. 18 fautes, c'est énorme, c'est un record depuis que Fabien Galthié a pris l'équipe. Et le sélectionneur ne voulait pas trop charger ses joueurs quand même. Il a noté leurs difficultés, mais lui, ce qu'il retient, c'est que son équipe a gagné et c'est tout ce qui compte.
C'est vrai que la victoire est tellement importante à ce niveau-là. Quel que soit le scénario, être en capacité de gagner un match international, notamment un match de tournoi destination, c'est clé et pour nous, c'est essentiel. Le deuxième objectif, c'était prendre le bonus offensif, prendre 5 points, ça aussi, c'est important. Après, c'est vrai qu'on n'a pas atteint tous nos objectifs, mais moi, je ne suis pas chafouin. Je pense qu'on a le droit de ne pas être toujours au top. Mais gagner déjà un match international à l'extérieur, c'est déjà important. Maintenant, on nous invite de faire mieux, beaucoup mieux.
Et Fabien Galthié et ses hommes qui ont maintenant 6 jours pour préparer le prochain match. Cédric, un duel qui s'annonce épique à Dublin face à l'Irlande.
Et c'est le rendez-vous de ce tournoi, il arrive tôt, c'est samedi face à peut-être le rival le plus dangereux pour les Bleus qui vont même pas repasser par la France, ils resteront à Rome jusqu'à jeudi avant d'aller à Dublin. L'Irlande, première nation mondiale qui elle a beaucoup plus convaincu hier en éparpillant le Pays de Galles, 34-10 à Cardiff, ça sera forcément un énorme combat à l'Aviva Stadium de Dublin. Si les Français veulent remporter le tournoi, il faudra montrer davantage, plus en tout cas que ce qu'on a vu à Rome cet après-midi. Midi.
Merci beaucoup Cédric De Oliveira, excellente soirée à vous.
À bientôt.
Et lui aussi a un physique de rugbyman, mais il terrorise les tatamis du monde entier depuis plus de 15 ans. Teddy Riner, 33 ans, décuple champion du monde, 3 fois champion olympique, a fait son retour à la compétition après une énième blessure, un retour gagnant, puisque le colosse de plus de 100 kilos a remporté le Grand Slam de Paris, victoire en finale face au japonais Yoga Ota. De bon augure dans sa préparation qui l'emmènera jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. On écoute sa réaction au micro d'Éric Mamrut.
Le vieux est de retour. Non, ça fait plaisir, comme je vous ai dit, hein, remonter sur ce tournoi de Paris. C'était important dans la préparation. Même avec 70% de mes capacités, je suis content. Je n'ai pas montré un judo extraordinaire, mais voilà, ça fait partie de la préparation. Comme je vous l'ai dit, la blessure que j'ai eue, ce n'était pas facile de revenir. Donc je suis content aujourd'hui d'avoir réussi pour mon staff, pour ma famille, pour tous les gens qui sont venus, d'être allés jusqu'à cette finale, chercher la médaille d'or. On est encore loin de mon meilleur niveau, on continue notre route. Et parfois, oui. Et même au jeu, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des combats, qu'on gagne par Shido, en Tsukumake. L'essentiel, c'est d'être sur le podium et d'avoir la plus belle des médailles.
Et Teddy Riner égale la légende du judo français Lucie Décosse en décrochant une 7e couronne dans ce Paris Grand Slam. Et parmi les autres résultats de ce tournoi, la Française Audrey Tchemeo a été sacrée pour la 6e fois de sa carrière. Tchemeo affrontait en finale des moins de 78 kilos une autre Française, Chloé Boutiguet, qui avait décroché sa qualification pour la compétition in extremis après le forfait de Madeleine Malonga. Et chez les moins de 70 kilos, Marie-Ève Gaillet repart, elle, avec la médaille d'argent après sa défaite aux pénalités contre l'Espagnol A et Tsunoda Roustan en finale. Tout au long de la semaine, vous avez pu entendre sur RFI des reportages dans le cadre de l'opération Sport Féminin, toujours destinée à mieux mettre en valeur sur son antenne les femmes qui évoluent dans le monde du sport. Direction la République démocratique du Congo et plus précisément Lubumbashi pour prendre des nouvelles de la section féminine du tout-puissant Mazembe, une équipe qui compte parmi les meilleurs effectifs africains. En témoigne sa participation à la dernière phase finale de la Ligue des Champions. Pascal Mangala est allé les rencontrer.
Natif de Bounia dans la province de l'Ituri, Justine Bossou n'a plus entendu des bruits d'armes, de guerre et autres bombardements. Une situation due à sa présence chez les Corbeaux. Depuis la saison dernière, la jeune milieu de terrain de Mazembe a pu voyager pour la première fois en dehors du pays à l'occasion de la dernière Ligue des Champions de la CAF.
Et aussi à remercier aussi nos dirigeants parce que aussi à moi vraiment ça m'a donné quelques remarques de ma carrière. C'était pas vraiment facile, c'est encouragé vraiment. Et les chefs nous ont aussi donné des stratégies, comment encore on va travailler, on va prendre des décisions pour se préparer encore parce que notre vision et encore de retourner pour jouer Champions League 2023.
Depuis le retour du Maroc, la manière des choses a changé à tout point de vue. Au sein du club noir et blanc de Lubumbashi, Maggie Safi est membre du staff technique des Corbeaux d'Âme.
C'était une première expérience pour une équipe qui vient de naître il n'y a que 2 ans. Donc nous avons appris beaucoup de choses. Premièrement, l'organisation, comment les autres équipes qui avaient plus d'expérience par rapport à nous, les cas des Mamelodi, ça s'organise à leur niveau. Nous avons fait ce qui était faisable pour nous. Si chez nous, au niveau local, les championnats n'avaient pas un niveau élevé par rapport à la Ligue des Champions. Et voilà, c'était une très bonne expérience pour nous.
Seule femme coach du championnat de football féminin de RDC, c'est avec un autre statut que Maggie Safi espère participer à la prochaine Ligue des Champions.
Quand j'ai essayé d'échanger avec les autres entraîneurs quand on était sur place au Maroc, comment est-ce qu'ils se comportent sur les terrains en tant que coach, comment est-ce qu'ils gèrent leurs matchs en tant que coach à ces niveaux-là. Mon rêve est d'aller plus loin, faire ma formation pour avoir la licence CAF, prochainement être coach titulaire au niveau de la Ligue des Champions.
La première campagne africaine de Mazembe au féminin n'aura pas eu que des conséquences positives. Et les blessures seraient encore béantes, selon Jeff Capondo, président de la section football féminin du TP.
Il y a aussi des joueuses qui ont déserté l'équipe, qui ont fui sans l'accord de notre équipe. Et c'est là où nous voulons insinuer qu'il y a une pratique vraiment qui dérange notre football au niveau de chez nous. Nous nous retrouvons avec certains prédateurs qui rôdent autour de nos clubs, qui détectent des bonnes joueuses et qui favorisent leur fuite au niveau de l'Europe.
Une situation que Mazembe compte bloquer par un encadrement déjà amélioré, toujours selon le comité sportif.
Nous sommes organisés pour faire en sorte que toutes les joueuses que nous avons au jour d'aujourd'hui au niveau de l'équipe de TP Mazembe d'Âme ont eu à signer leur contrat. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci possible et nous avons des structures qu'il faut. L'équipe est internée dans un centre sportif moderne. Nous avons tout ce qu'il faut comme équipement pouvant permettre à bien préparer l'équipe, à bien loger les joueuses, leur transport ainsi que et certaines autres choses de nature à permettre le bon épanouissement de l'équipe.
Pour des spécialistes du football de RDC, la volonté à elle seule des dirigeants du TP pourrait s'avérer insuffisante pour renverser la donne. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Et on termine cette émission avec cet entretien exclusif. Christophe Diremzian a rencontré il y a quelques jours la para-athlète Nantenin Keita, championne paralympique 2016 et championne du monde 2006 et 2015 du 400 mètres. À 38 ans, la franco-malienne fille du musicien Salif Keita, atteinte d'albinisme et malvoyante, prépare cette année les mondiaux de para-athlétisme à Paris du 8 au 17 juillet prochain, prélude aux Jeux paralympiques de Paris 2024, le dernier rendez-vous d'une longue carrière qui aurait pu se terminer sur un échec à Tokyo, mais elle a décidé de continuer jusqu'à Paris pour cet ultime défi.
L'idée, c'était d'arrêter à Tokyo. C'était le deal que j'avais passé avec mon entraîneur. Mais la frustration de Tokyo, le fait que les Jeux soient à Paris, le fait que ce soit que dans 3 ans, l'aventure humaine qu'on vit en fait quand on est athlète de haut niveau. Alors moi, je fais de l'athlétisme. C'est un sport qu'on dit individuel, mais je partage tellement avec mon entraîneur, avec mes collègues d'entraînement, avec même les entreprises qui peuvent nous accompagner. Voilà, c'est vraiment cette aventure qu'on écrit ensemble qui, moi, me donne envie, en tout cas, de continuer.
Très tôt, vous avez dû vous battre contre un certain nombre de préjugés du fait de votre albinisme. Ça fait partie de votre caractère, cette volonté de systématiquement se battre contre les préjugés?
Moi, ce qui fait partie de mon caractère, c'est vraiment de permettre, en tout cas, à chacun de trouver la place qu'il a envie dans la société. Et que chacun se dise « je suis normal comme je suis », parce qu'il n'y a pas de normalité, on se la crée. Et finalement, ce que les autres pensent c'est pas la réalité. Et j'aime amener les gens à penser autrement. Alors sans prétention, hein, parce que là ça fait très... Mais en tout cas, je me dis que par l'exemple et par l'apport de connaissances, eh ben, les gens, ils vont justement ne plus réfléchir avec leurs préjugés, mais réfléchir avec la réalité en fait.
En quoi le sport vous a aidé justement à faire en sorte que les préjugés soient vaincus, vous concernant?
Bah déjà, le sport m'a aidé à moi-même vaincre mes propres préjugés que j'avais sur moi, moi en tant que femme, en tant que personne en situation de handicap, parce que ça m'a donné confiance, ça m'a montré que difficile ne voulait pas dire impossible, et ça m'a aussi montré qu'on peut faire les choses en les adaptant. Et c'est pas parce qu'on les adapte qu'elles sont moins bien faites, pas du tout. Et ça, ça a été vraiment la révélation. Et le sport aussi m'a montré qu'il y avait différents chemins pour arriver au même endroit et qu'il y avait différentes personnes qui pouvaient arriver au même endroit. Alors si c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la vie de tous les jours.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore compliqué pour une para-athlète de faire en sorte que ses préjugés n'aient plus lieu d'être?
Oui, je pense que c'est toujours compliqué parce que le monde évolue forcément pas rapidement, parce qu'on sait que les préjugés, pour les vaincre et passer de l'autre côté, c'est pas facile. Mais par contre, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'à mon époque, qu'à l'époque de mon père. Et j'espère que ce sera plus simple à l'époque de nos enfants, que la société va être de plus en plus inclusive. Mais oui, aujourd'hui, c'est encore compliqué, mais au même titre que c'est compliqué pour une personne qui va être de la communauté LGBTQ+, excusez-moi si j'ai oublié quelques lettres, une personne qui va être noire ou d'une autre origine. Tout ce qui va être différent va forcément amener des préjugés, parce que les gens qui ont des préjugés souvent parce qu'ils ne connaissent pas complètement la chose en tout cas.
Les Jeux paralympiques seront un marqueur fort parce que ce sera un moment important pour faire avancer les choses pour les para-athlètes.
Je pense que les Jeux paralympiques et olympiques, c'est vraiment un marqueur fort pour beaucoup de choses. C'est un marqueur fort pour effectivement montrer à chacun qu'encore une fois, il a sa place dans la société. Montrer à chacun aussi la force d'être ou de travailler, de collaborer avec des personnes qui ne sont pas forcément du même milieu que moi, qui sont différents de moi en fait. Le sport a vraiment ce pouvoir-là de se dire qu'est-ce que je vais chercher en l'autre que je n'ai pas en moi, mais qui est hyper intéressant en fait. Après les Jeux, c'est une étape. Et c'est pour ça que cette notion d'héritage, pour moi, est hyper importante. C'est de se dire, OK, on a les Jeux aujourd'hui. OK, on met beaucoup de choses en place pour les Jeux aujourd'hui, mais demain. Et ce demain-là est hyper important. Comment demain, on continue à amener du sport dans les écoles? Comment demain, on continue à amener de la différence dans le monde? Comment demain, on continue à faire en sorte que chacun se sente bien là où il est, en fait? Les Jeux, c'est tous les 4 ans, mais si on veut que les choses s'installent, il faut les rabâcher.
Vous espérez un grand moment populaire pour ces championnats du monde de para-athlétisme cet été à Paris?
Bien sûr, j'espère qu'il y aura de l'engouement. J'en doute pas trop après, voilà. J'espère que le spectacle sera beau, j'espère que le spectacle plaira aussi. Après, on a aussi de la pédagogie à faire parce qu'on a beaucoup de règles et donc on a de la pédagogie à faire pour que le grand public comprenne aussi les enjeux qu'on a et telle ou telle catégorie, où est la difficulté, faire comprendre aussi que un amputé de bras qui a juste un moignon peut courir avec une personne qui est amputée au niveau de l'épaule. On a vraiment cette explication à donner, en tout cas cette clarification à donner au grand public.
Et Nantena Keita, interrogée par Christophe Diremzian, on espère évidemment la voir pour les Jeux paralympiques à Paris en 2024. Avant de vous quitter, un petit mot de football, puisque ça vient à peine de se terminer. L'OGC Nice vient de créer la sensation en s'imposant au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Score final 3-1. Sofiane Diop, Gaëtan Laborde et Bilal Brahimi ont marqué côté Aiglon. Malinowski a marqué côté Marseille. Mais malgré la défaite, l'Olympique de Marseille reste deuxième de Ligue 1. En tennis, l'américaine Alicia Parks a remporté ce dimanche le tournoi de Lyon en créant la surprise contre la française Caroline Garcia, 5e mondiale et tête de série numéro 1, 7-6, 7-5. Voilà, Mondial Sport, c'est fini pour ce week-end. Mais pas de panique, hein, vous pouvez retrouver votre émission préférée sur notre site rfi.fr. La semaine prochaine, vous aurez rendez-vous avec Christophe Diremzian. Un grand merci à Jean-Philippe Thury, merci à Hélène Avril pour la réalisation. Excellente soirée à toutes et à tous à l'écoute de la Radio du Monde.